petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Inventer une nouvelle société à partir de sa propre imagination, même si elle est généreuse, n'a pas de sens. Ce n'est ni du réalisme, ni de l'utopie. C'est de la fiction. En revanche, guetter dans la société des tendances lourdes, ou même des signaux faibles, qui annoncent des possibilités heureuses, pour peu qu'on s'engage à les développer. Voilà un discernement et une créativité progressiste et réaliste. C'est ainsi que nous percevons une insuffisance de nos droits de l'homme. Ce contrat social, celui des droits de l'homme, fait au XVIIIe siècle, c'était un énorme progrès cette époque-là. Mais au XXIe siècle, tout en restant le seul repère moral et politique quasi universel, donc à préserver, les droits de l'homme font souvent figure de droit à l'individualisme, le contraire de la cohésion sociale elle-même. Elle-même but de tout contrat social. Un autre contrat social est un consensus implicite ou explicite qui fait société. Pourtant, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789 a fini par devenir une évidence pour presque tous. Tous les éducateurs, parents, instituteurs, etc., s'appuient sur son article 4. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Nous avons tous la conviction que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Mais nous ne nous rendons pas compte que ces phrases proverbiales renferment une signification toxique. Être libre de faire ce qui ne nuit pas à autrui, eh bien, ça désigne autrui comme un gêneur potentiel, comme une limite à ma liberté, comme une frontière à mon espace vital. Dès lors, je ne puis que me méfier d'autrui, et Rousseau nous explique, en quelque sorte, pas mot pour mot, que son contrat social, publié en 1762, n'est qu'un armistice entre des guerriers fatigués de se faire la guerre pour conserver ou élargir leur espace vital. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 n'est qu'un cessez-le-feu, pas un traité de paix, et encore moins un traité de collaboration. Emmanuel Lévinas, dans son célèbre article du Nouvel Observateur, hors série numéro 2 de 1990, s'en console en écrivant au sujet de ces droits de l'homme, je le cite, « mauvaise paix, meilleure certes qu'une bonne guerre ». Il en appelle à un pacte plus fraternel, plus coopératif, plus solidaire. Je le traduis, j'espère sans trop le fossé, en disant « la liberté de tous commence quand chacun se sent responsable de lui-même, des autres et de la nature ». Contrat social de la prise en charge du bien commun par chacun et par tous, tel est sans doute le contrat social en gestation, du moins espérons-le, car dans ce contrat, autrui n'est plus l'adversaire potentiel, mais la condition de ma liberté. Je le répète, la liberté de tous commence quand chacun se sent responsable de lui-même, des autres et de la nature. Le contrat social du bien commun est principalement porté aujourd'hui par les divers courants écologistes, même si le concept de bien commun provient de Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle. Le risque nous responsabilise individuellement et collectivement. Il n'y aura de réussite que si chacun et tout le monde s'engage. La liberté de tous répond au moins le destin de chacun, reprend en main le destin de chacun. Le destin de chacun et de la planète. Cette liberté commence quand chacun est responsable de ce qu'il fait, responsable de l'humanité, responsable de la nature, y compris responsable des générations futures. L'armistice des droits de l'homme du XVIIIe siècle n'a pas empêché les incroyables violences sociales et politiques des XIXe et XXe siècles. Le contrat social du bien commun n'a vraiment commencé en France qu'avec celui du Conseil national de la Résistance qui, outre l'égalité en droit devant la loi, a tenté d'établir plus d'égalité dans les faits par les transferts sociaux et les diverses protections sociales. Et à la charnière du XXe et du XXIe, la Charte européenne des droits sociaux fondamentaux a ajouté aux droits un grand nombre de devoirs citoyens responsabilisant justement la quête du bien commun. Puis, Laudato si du pape François, en 2015, a clairement élargi le bien commun à la sauvegarde de toute la création. De plus, aujourd'hui, se sont développées des structures propres au nouveau contrat social, par exemple le commerce équitable, l'économie sociale et solidaire, même si tout n'y est pas parfait, les entreprises d'insertion, les mobilisations pour les sans-toit, les sans-abri. Bien sûr, il y a le domaine caritatif qui est important, mais aussi se développent les échanges à double sens. Des jeunes en particulier s'engagent dans des relations inter-individuelles où l'accompagnement des plus défavorisés, l'accompagnement de vie des plus défavorisés, devient souvent des enrichissements réciproques et interactifs. Ne peut-on pas mettre un espoir dans la société collaborative naissante, un peu sur le modèle de Jeremy Rifkin, l'Américain, production collaborative quand les logements à énergie positive seront tous en réseau, idem avec les imprimantes 3D et les Fab Labs, consommation collaborative quand on utilise les plateformes de services divers au lieu d'acheter chacun ses propres objets utiles. La richesse change de sens. Elle fut l'or et la propriété foncière, puis vient la richesse par la valeur économique ajoutée grâce au travail, mais depuis le confinement de la crise sanitaire, une autre richesse s'impose, celle de la valeur sociale et humaine ajoutée. La racine indo-européenne REG, du mot « richesse » signifie « force de vie ». Elle reprend son sens dans le nouveau contrat social. En passant de « la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres » à « la liberté de tous commence quand chacun se sent responsable de lui-même, des autres et de la nature », nous sommes passés d'un contrat social entre des individus à un contrat social entre personnes, c'est-à-dire des personnes ouvertes aux autres et au monde. Libération du seul fait que ma vie prend désormais un sens. Notre liberté n'est pas vide, En effet, libre dans les droits de l'homme, mais libre pour quoi faire? Elle est pleine des autres et m'oriente vers la vie au lieu de nous renfermer. L'autre, mon frère, est la condition de ma liberté, je n'existe pas sans lui. Mon identité est pétrie dans l'altérité de mes rencontres proches ou lointaines, dans le temps et dans l'espace. Chacun se reçoit des autres. Chacun se reçoit des autres, c'est ce que disent Lévinas ou Ricoeur, par des explications certes différentes. Attention alors de ne pas nous laisser séduire par un autre modèle de contrat social plus ou moins à la mode. L'engouement justifié pour l'écologie est dévié vers le paradigme des écosystèmes. Oui, il faut sauvegarder le monde vivant, et pas simplement l'humanité d'ailleurs, le monde est le contexte de survie de l'humanité. Mais le monde animal est celui où chaque individu est une proie et un prédateur, ou les deux. Les droits de l'homme nous ont libérés de cette loi de la jungle, ne nous y retrouverons pas. Est-ce que tout ce qui est naturel est forcément bon? Ben, interrogeons-nous sur le coronavirus qui est naturel mais pas très bon. En revanche, l'humanité est en échec sur tous les fronts de ses adversités parce qu'elle s'est installée dans la méfiance réciproque, voire la défiance. Si nous nous engageons dans le contrat social du bien commun, selon qui la liberté de tous, je le répète, commence quand chacun se sent responsable de lui-même, des autres et de la nature, alors nécessairement, nous rétablirons enfin la confiance.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.